Cité Québec, à un clic de votre liberté.
Boulevard, le Pit Stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Denis Gravel, considérez-vous comme salué, cher ami, en ce 1er décembre 2025.
J'ai survécu le parc des Laurentides hier soir.
Ah oui?
Un des pires que j'ai fait de ma vie, puis je l'ai fait, le parc des Laurentides.
Est-ce que t'as identifié les individus qui n'avaient pas encore leurs pneus d'hiver?
Écoute, après avoir vu deux vannes dans le clos, trois chars sur le terre-plein, je sais pas qui avait ses pneus d'hiver puis qui les avait pas, mais... Ouais. Prendre des chances dans des températures de même.
C'est
là,
complètement débile.
Risquer sa vie pour doubler un char. Là,
Hier, sur la 40, Denis, c'était sécuritaire de rouler à 60-70 km/h. J'ai pogné du monde qui roulait à 40-45. Ces gens-là hallucinaient leur vie. Et je suis pas mal persuadé que si j'étais arrêté à côté d'eux et je leur ai demandé « Vous, vos pneus d'hiver, m'aurait dit non. » Les voitures variolaient d'un bord puis de l'autre à 40-45 km/h. Il y avait de la misère à avancer, roulait ses quatre flasheurs. Puis contrairement à ce que tout le monde va me dire, là, non, c'était pas des nouveaux arrivants. Là, c'était des gens blanc, le teint latté. Là.
Des conducteurs de souche.
Des conducteurs de souche qui, eux autres, se disent « Hey, je suis encore capable, mes pneus sont
bons. » Ben oui, ben oui.
C'est des dangers publics, en fait.
J'ai fait le parc des Laurentides à l'époque où il n'était que sur une voie de chaque côté.
Oui.
Puis des fois, pendant des sections de 40 ou 45 kilomètres, ben, on était dans une longue filée de voitures, puis tu pouvais pas dépasser. Mais il y avait toujours quelqu'un qui l'essayait. Ça finissait en face à face. Tu sais, je me souviens d'une manifestation audacieuse où on avait fait défiler les cercueils à l'Assemblée nationale. On avait compté le nombre de décès qu'il y avait eu dans le parc des Laurentides sur 5 ans. On avait fabriqué des cercueils qu'on avait fait défiler avec les noms des personnes qui avaient trouvé la mort dans le parc des Laurentides.
Ouais.
Ça a fait partie des nombreux moyens de pression qu'il y a eu à un moment donné pour sécuriser le parc. Là, on est sur deux voies de chaque côté. À partir de là, c'est à nous autres de faire notre bout en tant qu'automobilistes. Puis quand il y a de la température hors norme, ça donnait l'impression hier qu'on est une place où il tombe jamais de neige. Puis tout le monde était sur le stress, puis tout le monde était énervé. J'ai pas honte de dire que j'ai fait le parc à 70 km/h d'une file de 14 chars.
C'est ça. Mais ça roulait à 60, là, ça roulait bien correct si t'avais tes pneus d'hiver, si t'étais bien chaussé.
Ben oui.
Hey, j'ai une statistique pour vous autres. Max, j'aimerais que tu la corrobores sur Internet par la suite. Combien a coûté l'autoroute entre Québec et Saguenay? OK. Le tramway va coûter combien, Jeff?
Comment il va coûter 7,6 milliards de dollars.
7,6 milliards.
Jusqu'à la prochaine révision.
Jusqu'à la prochaine révision pour 19 kilomètres de
tracé. Le troisième lien, ça pourrait aller jusqu'à combien?
Ben, le troisième lien, on parlait là, que ça pourrait aller jusqu'à 10 milliards de dollars pour
10 milliards de dollars. Denis, combien a coûté Québec-Saguenay l'autoroute?
Plus ou moins que le centre Vidéotron?
Ben là, le centre Vidéotron, c'est 400 millions parce qu'on a joué un peu avec ce qu'on a fait autour.
Ouais.
Mais le centre Vidéotron, c'est 400 millions.
Ouais. C'est en quelle année qu'on a refait l'autoroute?
Ça doit faire quoi, une bonne dizaine d'années peut-être?
Plus que ça.
Plus que ça?
Plus que ça, de mémoire. Ah. On atteint-tu le 500 millions?
Ça a coûté 1 milliard de dollars.
Okay.
C'est ça les chiffres que t'as, Max?
Pour le parc, là, ouais. Pour la route du parc? Je vais essayer de trouver ça.
OK.
Non, mais je savais pas de quoi tu parlais. Ce que j'ai, c'est... Parce que là, l'intelligence artificielle n'est pas rendue parfaite encore.
Non, c'est pas parfait.
Ça a coûté près d'un milliard.
C'est ça.
Ce qui est près du double du budget qui avait été prévu initialement.
Okay. Double du budget. Scandale. Ouais, mais imaginez-vous, les amis. Québec-Saguenay, on a coupé de l'arbre en sacrifice.
Ben oui.
On a fait des viaducs, on a fait des ponceaux, on a fait de l'asphalte. Ça a coûté juste un milliard. Puis là, on nous arrive avec un tramway de combien de kilomètres, Jeff?
19 kilomètres.
19 kilomètres avec des montants hallucinants. Même chose pour ce qui est du troisième lien.
T'as-tu fait un tunnel avec la Tarot 5-2?
Non, mais j'ai pas fait un tunnel, mais j'ai fait des ponceaux, par exemple.
J'ai même
clôturé ça à grandeur. T'as-tu déjà fait clôturer ta piscine chez vous?
T'as-tu mis
des fois, ça coûte aussi cher que la piscine.
T'as-tu mis des rails sur la Tarot 5-2?
Non, j'ai pas mis de rails.
Tramway des rails.
J'ai pas mis de rails.
Tes wagons pour transporter le plus de monde possible,
sont ouais. Ouais.
Hein?
Ouais.
Ben, c'est pour ça que ça coûte, ça a juste coûté un milliard.
Ils ont fait des tunnels. La petite faune puis la grosse faune. Ouais. Ils ont des tunnels pour passer en dessous de l'autoroute.
Oui, là. Ils ont pensé à ça.
Un milliard.
Ils ont fait des tunnels puis ça coûte juste un milliard.
Des tunnels à siffleux.
Des tunnels à siffleux. Ben, c'est important de le faire. Comment ils l'ont fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, ce montant-là, un milliard, m'avait vraiment, mais vraiment surpris. Là, parce qu'on avait du kilomètre d'asphalte à faire comme pas possible. Puis de voir les grands projets à Québec qui coûtent tous ces milliards-là, je me dis, mais on l'a donc bien échappé dans les dernières années au niveau des coûts, tu sais. On a-tu revendu le bois? On a peut-être revendu le bois. C'est peut-être fait de l'argent avec le bois.
Peut-être. Non, mais t'as un feu de circulation rendu à un million.
Ouais, c'est vrai.
Il y a des compagnies qui ont compris les passes.
Ben là.
Oh oui. Oui. Il y en a qui savent comment ça marche à cette heure.
Avais-tu le cœur fendu en fin de semaine quand t'as vu le match canadien-nordique?
J'ai rien filé.
Hein?
J'ai eu quelques pensées en vrac.
T'es mort
en dedans. Puis j'ai eu une super conversation avec mes kids. Premièrement, ce chandail-là est vraiment beau. Là. Première affaire, là, le look de ce chandail-là. Ah. Particulièrement sur nos TV en haute définition maintenant, là, comparé aux vieilles images qui grichent puis tout ça. Là, mais ce chandail-là est très beau. Je comprends la Ligue nationale de hockey de faire un gros coup d'argent loin de nous. C'est l'argent des Nordiques, mais pas pour les Nordiques. Il y a quelque chose là-dedans qui me fait fondamentalement chier. Là. Okay? Mais ça m'a permis de parler à mes gars de la Nordique Nation. De tout ce qu'on a fait au fil
vrai,
des...
Ils l'ont pas vécu.
Ben non, ils l'ont pas vécu, puis ils savent pas c'est quoi non plus. Puis je suis allé sur YouTube chercher des images de la manifestation qu'on avait faite à Times Square, à New York. Je leur ai raconté les voyages qu'on a faits, le but de ces voyages-là. Puis je leur ai dit, les gars, on a... j'ai quasiment réussi à vous ramener Nordique. Je me suis mis... je suis mis beau là-dedans. Là. Ouais, j'ai quasiment réussi à vous ramener
Nordique. Prends-tu le blâme aussi?
Le blâme, non. Le blâme, c'est Gary Bettman.
Après ça, ces gars vont aller à l'école. Et mon père a quasiment failli. Ils vont se faire boulier. Vous avez vu la game en fin de semaine?
Ouais.
Mon père a passé proche, je l'ai ramené à Québec.
Ouais, mais voir Nate McKinnon avec son gilet des Nordiques, c'était de toute beauté. Que je me suis dit... Ça me prendrait peut-être un gilet. T'sais, j'en mets jamais de gilet d'équipe de la Ligue nationale. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, tiens, ça me prendrait comme pas de gilet.
Je peux pas contribuer à ce niveau-là. C'est comme si, je sais pas, moi, Magali Picard irait à Dubaï. Tu sais, à un moment donné, il faut être conséquent avec ce qu'on dit.
Oui, exact.
T'as raison.
Exact, mais 400-500$ pour un gilet des Nordiques, c'est peut-être un peu trop cher à payer. Il y a quelqu'un qui
Ramène-moi-les, je vais en acheter deux, OK?
Ouais.
Mais tant qu'ils vont être au Colorado, là, puis que l'argent va à Gary Bettman, no fucking way, je peux pas. Moi, c'est là que j'arrête. Okay. Là.
Mais les fameux gilets des Nordiques, là, tels que les joueurs de l'Avalanche ont porté, il n'y en a plus.
Ah, c'est
rupture
sûr.
Rupture de stock.
C'est sûr, puis, tu sais, je te dis, j'ai rien filé en regardant la TV parce que, tu sais, c'est une mascarade, c'est pas les Nordiques, c'est l'Avalanche, ils sont rendus au Colorado, pis tout, mais tu sais, j'ai bien vu que ça shakait mes enfants, là. De ben dire, hey, ça pourrait être au centre Vidéotron. Ouais. On pourrait être à 5 minutes de char d'aller voir du hockey de la Ligue nationale 3 fois par semaine. J'ai vu que ça a shaké mes enfants. Là.
Joe Sakic qui dit, j'aimerais ça jouer un match de saison régulière à Québec. Tu y crois-tu?
Oui, mais... C'est l'équivalent de, je sais pas, moi, demander une maison, puis tu dis, ah, il est fin, là. Moi, il fait un petit garage dans le coin, là.
Parce qu'un match préparatoire, je comprends que le cash peut rentrer dans la boîte, là, mais je veux dire, il y a assez de monde au Colorado pour fouler leur amphithéâtre, là.
Mes parents ont jamais voulu m'acheter de Nintendo. Mais je demandais un Nintendo, puis je voulais un Nintendo, puis je faisais énormément de pression pour avoir un Nintendo à Noël. Acheter, donner. Un moment donné, ils ont fait leur effort. Ils se sont dit, ah, ça va y fermer à boîte, là. Ils m'ont loué un Coleco pour une fin de semaine.
Un Coleco?
Ouais, un Coleco, ça, c'est une vieille console là, qui était déjà pas mal rétrograde.
C'était celle-là avec la roulette?
C'était celle-là avec la grosse manette qui donnait des ampoules, qui avait des numéros qui servaient à rien.
C'est ça, OK.
Puis t'avais une espèce de gros proton dans le milieu, là. C'était gros comme un vaisseau spatial de Star Wars, à peu près. Mais moi, c'est un peu l'impression que ça me fait. C'est sûr qu'on va remplir le centre Vidéotron si on a une game canadien-nordique avec l'Avalanche. On va triper comme des maudits malades, puis je vais amener mes flots. Je vais être complice de ça. Mais c'est un club de la Ligue nationale qu'on veut, et comme je l'ai expliqué à mes enfants avec toutes les raisons financières, tu sais, c'est pas demain la veille, puis ce qui est arrivé avec les Jets de Winnipeg, Gary Bettman a changé les règles pour plus que ça arrive, ont permis aux Coyotes de jouer d'un aréna de 5000 places pour être sûrs qu'ils s'en viennent pas à Québec. Il n'y a pas beaucoup de volonté de la part de la Ligue nationale. Le Canadien, clairement pas un allié non plus dans ce processus-là, alors qu'ils vendent des chandails à grandeur de la province puis qu'ils partagent pas les revenus avec une autre équipe.
Mais devant les médias, Canadien, il se fait aller à la gueule un peu. C'est porte-close qui veut rien savoir du retour des médias.
C'est normal, puis c'est la game qu'il faut jouer.
Parce que si, devant les médias, il disait « je veux rien savoir du retour des Nordiques », il y aurait moins de partisans du Canadien, mais il y aurait moins d'achats de gilets, il y aurait moins de gens qui jetteraient les billets à 200$. Fait que, il n'y a pas le choix de le dire.
C'est l'hypocrisie derrière, derrière tout ça.
Petit clin d'œil sympathique. Si vous écoutiez le match à la télévision en fin de semaine, l'uniforme faisait la job. Puis Pierre, Pierre Houde, mon ami Pierre Houde, il dit c'est l'Avalanche. Fait qu'on va les appeler l'Avalanche. Puis t'es à TV, puis tu vois le chandail des Nordiques, puis tout ça. Si t'écoutais le match à la radio,
c'est les Nordiques.
C'était les Nordiques.
C'était les Nordiques, oui. Moi, parce j'ai écouté la deuxième période à la radio.
Si tu les appelles pas les Nordiques, là, il n'y a rien. Là, je veux dire, tu peux pas le voir, le chandail bleu. Là. Fait que si tu fais juste... C'était la seule façon à la radio de rendre ce match-là un peu spécial. Parce que si tu les appelles pas les Nordiques, le chandail, tu le vois pas, fait que tu vis rien.
Oui, puis on fait un sondage auprès des auditeurs et c'est 65% des auditeurs qui ont dit « on veut qu'ils soient appelés les Nordiques ».
On va faire semblant jusqu'au bout.
C'était
hot. Hey, tant mieux pour ceux qui ont filé de quoi.
Mais les 35 qui ont dit non, ils pensaient à quoi?
Non! Ils sont partis, ils veulent rien savoir. Ils sont partis, moi j'embarque pas là-dessus.
C'est le temps où il y avait la Nordic Nation, on parlait d'un milliard pour faire venir une équipe de hockey à Québec avec un club école, le personnel d'entraîneur et tout ça. Ouais. Là, on est rendu à presque deux.
C'est deux.
Qui a les moyens au Québec d'amener un club à 2 milliards? Luc Poirier avec ses chums?
Encore faut-il que la Ligue soit intéressée, même si tu es prêt à déplier ce prix-là. Grâce au succès des Knights de Vegas, il y a plein de marchés américains qui se sont réintéressés à avoir une franchise de hockey. Ça a donné le Kraken de Seattle, ça a donné le Mammouth, puis Dieu sait qu'il y en a peut-être d'autres. Dès qu'il va avoir une possibilité, elle va passer avant Québec. Et maintenant, Gary Bettman, qui considère comme un échec personnel le retour des Jets de Winnipeg, va toujours contourner ses propres règles pour empêcher le déménagement d'une franchise à Québec.
Ouais, puis
c'est malheureux, là, mais faut regarder la réalité en face, ça fait moins mal.
Oui, puis il veut des développements de marché américains avec des poches très profondes.
Voilà.
L'exemple de Utah est un bon exemple parce que le propriétaire est le même propriétaire que le Jazz de Utah Basketball, donc le gars vaut des milliards de dollars. Même principe, normalement, une prochaine franchise, ça serait Houston, parce que le propriétaire des Rockets de Houston à basketball, que l'aréna, dit « moi, je veux du hockey aussi pour rentabiliser mon aréna. » Alors...
On gosse avec le marché de télé, mais c'est vraiment la réalité aussi. À Québec, t'as pas de monde à aller chercher. Le monde regarde déjà le hockey à TV, alors que bien des marchés aux États-Unis, le potentiel est gigantesque.
C'est le bout le plus choquant. C'est que c'est notre amour du hockey qui fait en sorte qu'ils se sacquent de nous autres.
Ouais.
Et combien de gens à partir de Québec se sont commandés des beaux chandails des Nordiques marqués Sakic en arrière ou McKinnon en arrière. T'sais. On est coupable de notre amour du hockey. On aime plus le hockey que Gary Bettman. On aime plus le hockey que bien des amateurs. En passant, des tripeux de hockey, il y en a partout. Ça a été un des grands plaisirs de la Nordique Nation de voyager puis de rencontrer des amateurs de hockey.
Ah, c'était un méchant beau
trip. Oh man, on est allé passer une semaine en Floride. On a fait de la radio là-bas pour aller voir un match entre les Panthers puis les Capitals d'Alexander Ovechkin. On est allé au New Jersey à quelques reprises, à New York également. On est allé au Centre Bell. On a fait une percée à Montréal.
Vraiment une job de marde.
Ouais. Mais en même temps, quand Max parle du marché de télé aussi, faut pas oublier qu'il y a le marché francophone de télévision, des difficultés.
Ouais,
TVA Sport ne rembarquera pas dans le deal.
Ben non.
Bell et RDS n'ont pas vraiment moyen non plus de se payer ça. Ah, donc,
c'est tough.
Là. Ça se peut que le hockey francophone se retrouve sur des plateformes numériques d'ici peu. Là.
Mais bref, Denis, on s'aperçoit que le Canadien n'est pas dans le game là, pour ce qui est des séries éliminatoires et de la finale de la Coupe Stanley. Colorado est pas mal plus sur la bonne voie. Là. Canadien, on est-tu sur la bonne voie aussi, Max?
On est sur la bonne voie, mais on n'est pas rendu.
Je vais vous rappeler poliment que les deux dernières Coupes Stanley du Canadien de Montréal, c'était loin d'être la meilleure équipe au classement. En 86, les Oilers devaient signer leur dynastie dans les années 80. Les Oilers, quand Steve Smith a scoré dans son but au septième match face aux Flames de Calgary, les Flames ont réussi à éliminer les Oilers. Le Canadien, sa fesse, avec un certain Patrick Roy qui gaulait sa tête, un Claude Lemieux qui scorait des gros buts, un Stéphane Richer qui snappait comme on n'avait jamais vu. Ça a fait en sorte que le Canadien s'est rendu jusqu'aux Flames et a gagné la Coupe Stanley en 86.
Un Stéphane Richer, on en a peut-être un. Un Claude Lemieux, non. Puis encore moins Patrick Roy.
Je pense que oui, mais en 93, même scénario. Les Nordiques étaient meilleurs que le Canadien. Ils menaient cette série-là 2-0. Puis le Canadien... Bon, il y a quelqu'un qui a dit « J'ai trouvé le point faible de Patrick Roy ». Tu parles d'une affaire à dire à Patrick Roy en séries éliminatoires.
Et Patrick Roy a dit « À cette heure que tu le sais, tire dedans ».
Tiens mon biscuit. m'a te montré comment ça marche. Puis finalement, le Canadien avait gagné cette série-là en 6 en revenant de l'arrière. Gagné combien de matchs en prolongation en 93 pour finalement se débarrasser des Kings en finale?
Avec le petit clin d'œil.
Les deux dernières Coupes Stanley du Canadien et du Canada, c'est pas la plus forte équipe qui s'est rendue au bout. Et l'Avalanche est une équipe incroyable, mais c'est pas la première année. Il y a beaucoup d'équipes difficiles dans l'Ouest. Puis l'équipe qui va loin dans l'Ouest, elle arrive maganée aussi en finale. C'est des affaires qu'il faut penser. Le Canadien, avec un paquet de jeunes, il peut arriver n'importe quoi. C'est pas une indication d'échec, là, ce qui est arrivé en fin de semaine. C'est de montrer... OK, ça, là, présentement, là, faut trouver un moyen de gagner contre une équipe qui nous domine comme ça. Puis c'est sûr que c'est pas évident. Hey, que ça va vite, tabarnouche.
Ouais, ça va vite.
Ils sont hallucinants.
Denis, manifestation intersyndicale en fin de semaine. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre le gouvernement Legault. On parle d'à peu près 50 000 personnes. Est-ce que c'était 40 ou 60 000? Je le sais pas. J'étais pas là. C'est pas moi qui tenais le fanal.
Il y en a qui disent que c'était 10 000.
Ah, il y en a qui disent que c'était 10 000. L'important, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y avait une manifestation. Il y avait la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Il y avait 150 à 200 autobus qui étaient venus de partout dans province. Ça va-tu finir à un moment donné? Magali Picard, qui a pété les plombs encore la semaine passée, qui l'a échappé, refuse de donner la main au ministre du Travail, Jean Boulet, alors que c'est quand même d'usage, là, quand tu parles avec quelqu'un, de lui serrer la main. Par la suite, a une entrevue qui se passe très mal dans une station de radio de Montréal où elle jase avec Patrick Lagacé. Puis elle dit « Vous me parlez comme ça parce que je suis une femme. » Elle semble manquer d'arguments. Puis là, ben, elle me parle aussi de dictature, compare le Québec à la Russie, compare le Québec à la Corée du Nord, compare le Québec au Venezuela. Comment une personne si peu éduquée sur l'histoire du monde entier peut accéder à un si haut niveau du plus gros syndicat qu'on a au Québec? Je trouve ça hallucinant. Elle est en train de nuire à sa cause parce que le nombre de gens de la FTQ, des membres de la FTQ Construction, qui m'ont écrit pour me dire « Hey, j'ai honte d'être représenté par cette personne-là. » Écoute, c'est plus de 100 en fin de semaine.
Pourquoi historiquement, dans 80% des cas, c'est les plus colons, les plus crétins, les plus rustres et les plus crottés de l'empire syndical qui se rendent à la tête? Ça, c'est une question intéressante. Pourquoi une tête syndicale pense qu'elle peut rentrer dans un bureau de premier ministre à coups de calice de tabarnak en donnant des coups de poing dans les murs?
Ça se faisait dans les années 80.
Oui.
On est en 2025.
Je te parle d'historiquement. Puis Magali Picard, moi, là, ce qu'elle a entre les jambes, un vagin, un pénis, j'en ai rien à branler, là. C'est une femme mal engueulée. C'est une chef syndicale indigne qui, en plus... va dénoncer des choses qui se font ici au Québec. On l'a-tu entendu dénoncer le démembrement de journalistes à Dubaï?
Ben non.
On l'a-tu entendu dénoncer la situation des femmes à Dubaï qui n'ont pas le droit d'aller voir de la lutte quand il y en a à l'aréna? Oh non! Ça, c'était pas grave. Puis faut pas y en parler de son hostie de voyage à Dubaï non plus. Ben non! Ça, c'est du lèse-majesté pour madame. Femme, homme... pénis, vagin, un colon, c'est un colon. Et Magali Picard est un osto de gros colon ou une osto de grosse colonne. Si elle veut donner des leçons de régime, si elle veut donner des leçons de ségrégation envers les femmes, elle peut reprendre l'avion puis retourner à Dubaï. Elle a manqué sa première opportunité.
Tu comprends qu'elle va disparaître.
À partir du moment... où tu t'en vas donner de l'argent à ces régimes-là pour quelque raison que ce soit, t'as pas le droit de donner de leçons à qui que ce soit, sur quoi que ce soit. La FTQ, débarrasser le plancher de cette pauvre femme. Vous passez pour une gang de gorlots C'est pas la première fois qu'on me dit. Ah, la FTQ Construction, les boss qui prennent des brosses sur l'heure du midi, puis après ça, ils prennent le pick-up pour retourner chaudaille à la maison.
Attention, 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 on va te courir après, t'es un lanceur d'alerte.
Ils déclenchent une enquête à FTQ Construction, pas pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, puis pourquoi les boss, à chaque année, s'achètent un pick-up neuf avec les cotisations des membres. Non, non, non! Fallait trouver c'était qui le rat qui avait parlé sur nos brosses et nos gros steaks sur l'heure du midi.
On l'aimait, notre F-150.
Mais pourquoi les syndicats se croient tout permis? Et la réponse est simple, cruelle et elle fait mal. Parce qu'on leur donne tout. Parce qu'il n'y a pas une paire de couilles au gouvernement qui est capable de leur tenir tête. Parce que, historiquement, quand une tête syndicale rentre d'un bureau de premier ministre à coups de calice de tabarnak, en donnant des coups de pied dans les portes puis des coups de poing dans les murs, le premier ministre fait dans ses culottes et les syndicats ont toujours le dernier mot. Et c'est pourquoi, encore, en 2025, c'est les plus colons et les plus mal engueulés qui réussissent à se hisser au sommet des syndicats. C'est malheureux, mais c'est parce que ça marche qu'ils marchent de même.
Max, là, la loi 14 est entrée en vigueur hier.
Oui.
On nous dit qu'en cas de grève ou de lock-out, la loi 14 qui est rentrée en vigueur hier prévoit que le ministre du Travail a le droit d'imposer le maintien d'un service minimal obligatoire s'il considère que le moyen de pression risque de causer un préjudice à la population. Au RTC, quand on a décidé pendant un certain temps de cesser le service parce que les mécaniciens n'étaient pas disponibles ces jours-là, ben ça a fait en sorte que Québec est un peu paralysé au niveau du transport en commun. Mais si cette grève-là dure un mois, ben le ministre pourrait dire, là, ça fait un mois,
oui.
Il y a des problèmes, là. Il y a des gens qui ne peuvent pas se promener en ville, aller travailler et tout ça. Il y a des rendez-vous dans les hôpitaux qui sont ratés. Ben là, vous devez retourner à job.
Oui, mais le projet de loi va encore plus loin, c'est que le ministre va avoir l'autorité d'exiger une négociation de services essentiels dès le premier jour de la grève.
Donc, c'est pas une mauvaise chose.
Mais non, c'est pas une mauvaise chose. Donc, pour reprendre l'exemple du RTC, ben, il dirait, vous devez négocier l'employeur et la partie syndicale un service essentiel. Vous n'êtes pas capable de vous entendre, ça va être un médiateur ou un arbitre qui va trancher. Parce que c'est du transport en commun, parce qu'il y a des gens qui en dépendent pour les services médicaux, parce qu'il y a des travailleurs défavorisés qui voyagent avec ça. Voici pourquoi c'est un service essentiel.
C'est un service essentiel.
Ben, exactement.
C'est une lacune qu'on a présentement.
Ben, oui.
Puis ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous vend dans les villes modernes.
Oui, puis quand tu dis... pourquoi les syndicats fonctionnent comme ça? Parce que ça a toujours marché. Ben, c'est un bel exemple, ça, le terminal administratif du travail, tu es échappé en disant que le service à client,
ben
que
oui,
le transport en commun
n'est
pas un service essentiel.
Puis tu sais, je m'emporte un peu parce que ça me choque. J'ai l'impression
ben non,
qu'on a joué dans ce film-là souvent, mais tu sais, la base, c'est que le système québécois est loin d'être parfait. Mais moi, des gens qui font la leçon à nos façons de faire, mais qui s'en vont enrichir les régimes les plus corrompus du monde. Puis après ça, ils reviennent ici, puis il ne faut pas poser de questions là-dessus, il ne faut pas se demander. Il faut se rappeler qu'on était dans un climat de négociation syndicale aussi quand c'est arrivé. Moi, c'est des affaires qui me puent au nez. Les gens qui ne sont pas conséquents, les gens qui dénoncent des choses, mais juste dans la cour des autres, je trouve ça méprisable. Magali Picard est méprisable. Et elle mériterait de se faire rappeler à l'ordre, pas par le gouvernement, par ses membres. Je sais qu'il n'y a pas de couilles au gouvernement. Il y a sûrement une couple de paires de testicules qui traînent à quelque part dans la FTQ. Je peux pas croire. Gars, fille!
S'attaquer à une femme en public, Denis, c'est très mal vu au
mais
Québec.
Mais la vraie...
Avec raison.
C'est quoi la vraie équité? C'est d'être capable d'appeler une grosse colonne une
mais
grosse colonne.
Si j'étais ton conseiller là, politique, là, je te dirais... Savez-vous quoi? À l'intérieur des portes, oui, mais dans les médias, non.
Que ce soit un homme ou une femme, cette façon-là de faire du syndicalisme aurait dû mourir
c'est
en
dépassé,
1979.
Oui, c'est dépassé.
La vraie égalité, c'est d'être capable de dénoncer les écarts des deux bords en passant.
En fin de semaine, j'étais sur Twitter, puis Il y a de ça quelques années, j'étais entouré de gens qui parlaient de dictature pendant la pandémie, OK? Et là, de les voir en fin de semaine dire que ça n'a pas de bon sens que Magali Picard dise qu'on est dans une dictature, ça me faisait bien rire.
C'est bizarre, hein? Mais tu vois le manque de conséquences que je t'explique, ben c'est ça.
Je comprends que les choses changent, là, mais des fois, tu devrais peut-être dire, attends un peu, moi, je l'ai dit dans le temps aussi, là. Tu sais, François Legault n'était pas parfait pendant la pandémie, là. Non. Tu sais, il n'y a aucun pays qui était parfait. Puis, il a fait des erreurs. Puis, s'il y en a bien un qui n'est pas mon préféré, c'est François Legault. Puis, il m'a fait chier quand il m'a envoyé un texto pour me dire d'aller me coucher. Puis, pendant le temps des fêtes, quand il a demandé à nos parents de choisir un enfant ou l'autre, ben moi, j'ai pas été choisi. Fait que c'est pour ça que je suis en tabarnak. Mais, hey, dites à votre mère de 80 ans de choisir entre ses deux fils ou choisir entre ses deux filles pour savoir qui va aller célébrer Noël avec. Moi, ça, là, ça me faisait chier. Mais on est loin de la dictature. Puis, de voir qu'en fin de semaine, sur Twitter, il y a des gens qui se faisaient aller la gueule alors qu'eux autres ont traité le gouvernement Legault de dictateur pendant 2 ans. Je trouvais ça très drôle.
Ben, c'est parce qu'il se serait fait emprisonner en Russie faire une manifestation comme ça.
Ben oui.
La police débarque, on les emprisonne. Oui.
Dictature. Dictature dès que ça fait pas notre affaire. Puis en même temps, on est un peu... C'est un peu le but de ma réflexion. On est responsable de ça. Pourquoi Magali Picard est ce qu'elle est? Parce que cette façon-là de faire, ça fonctionne. Pourquoi elle manque de conséquences? Bien parce que tout le monde manque de conséquences. Tout le monde crie à dictature quand ça ne fait pas notre affaire. Je trouve que ton exemple et ta réflexion est super bonne, Yann. On vit dans le monde qu'on mérite, rien de moins. Achetons-nous des chandails des Nordiques, ils ne reviendront pas plus.
Non, c'est ça.
Mais au moins, il est beau, puis on va être heureux.
Ah, il est beau. Oui, pour être beau, il est beau.
Denis, on est le 1er décembre 2025. Yeah. La saignée de Pablo Rodriguez continue. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on la gagne de Québécois contre Pablo Rodriguez? Dictature? Ben oui, on sait bien. Probablement François Legault qui paye le Journal de Québec et le Journal de Montréal pour poursuivre Pablo Rodriguez.
Clairement.
Mais c'est comme ça dans les dictatures. Hein?
Oui.
Des médias complices.
Ouais.
Pablo Rodriguez, ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il peut remercier le Parti libéral du Canada. Je ne suis pas très outré par l'article, très honnêtement. Il y a une quarantaine d'élus et d'employés actuels ou passés du Parti libéral du Canada qui ont contribué à la campagne de Pablo Rodriguez au Québec. Là, il y en a qui y vont par association, mais...
C'est des gens qui ont payé un fort prix pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas. J'ai-tu bien compris le mot?
Ben oui. Oui ou non?
Hey, bonne.
Mais tu sais, au même titre que quand je regarde le Parti conservateur du Québec, il y a beaucoup de gens à l'intérieur du Parti conservateur du Québec qui sont proches conseillers d'Éric Duhaime, qui sont aussi proches conseillers du Parti conservateur du Canada. Uh-huh. Tu sais, sont complices pas pire, puis les programmes se ressemblent un peu. Mais pour ce qui est du Parti libéral, ça peut être perçu comme différent. On en parlait un peu ce matin avec Jeff. Le Parti libéral du Québec a toujours été un parti qui était très près de l'argent des contribuables.
Oui.
Bon, des fois, il en donnait aux amis, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais n'en demeure pas moins que les déficits, le Parti libéral ne tripait pas tant que ça au Québec de faire des déficits. Puis, il nous laissait présager qu'il faisait attention à notre argent. Là, on a un Pablo Rodriguez qui arrive du Parti libéral du Canada avec comme principal boss Justin Trudeau qui a été énormément dépensier. Ce qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce que ce gouvernement libéral-là a tenté d'avoir un bureau satellite au Québec pour... contrôlé comme une petite marionnette, puis on a choisi Pablo Rodriguez, qui visiblement semble être une excellente marionnette parce qu'il n'est pas capable de rien faire sans s'enfarger.
En tout cas, si on a voulu créer une antenne satellite au Parti libéral du Canada, on peut dire que c'est une opération ratée de A jusqu'à Z. Puis je vais reposer ma question avec un peu plus de sérieux. Ça faisait-tu le bonheur de Mark Carney et de son entourage de financer le départ de Pablo Rodriguez du Parti libéral du Canada?
Ouais, au moment où il a traversé le pont, c'était encore Justin qui était là.
Exact. C'était encore Justin, c'est
le
vrai.
Le feu était pris dans la maison, puis il a dit « Bon, où est-ce que je pourrais aller continuer ma carrière politique? » Ah, au Québec, tu sais.
Parce que il y a des choses qui pourraient s'expliquer à partir du moment où, oui, il y a eu une tentative de putsch du Parti libéral du Québec. Prenons ce parti qui est en faiblesse au point où Denis Coderre est sur le bord de devenir le chef, là. Puis on va essayer de s'installer un petit peu plus activement, puis de faire en sorte que le PLQ et le PLC se ressemblent davantage. Je pense qu'on va tous être d'accord autour de la table pour dire que ce qu'on a vu de bon du Parti libéral du Québec dans les dernières années n'a rien à voir avec le Parti libéral de Justin Trudeau et de Mark Carney. C'est des éléments qui étaient déjà là, qui prenaient déjà de la place, qui étaient déjà au courant des dossiers. Puis je comprends que ces gens-là, présentement, attendent que l'expérience Pablo Rodriguez se termine. Mais après, j'ai le feeling qu'ils vont être quelques-uns à avoir bien des choses à dire sur ce passage-là. Trouble de la politique, parce que c'est peut-être pas une mauvaise vision de dire « Ouais, le Parti libéral du Canada a essayé de s'arrimer avec le Parti libéral du Québec et de le reconstruire à son image. » Est-ce que ça n'a pas collé. La greffe n'a pas collé.
Si Paul Saint-Pierre Plamondon n'était pas si haut dans les sondages, est-ce que la stratégie aurait été la même, tu penses, de tenter de s'infiltrer dans le Parti libéral du Québec?
Écoute, moi, je reviens toujours à la même question de base. Comment on a pu s'imaginer qu'un gars aussi peu loquace que Pablo Rodriguez allait faire un bon chef de parti. Même avec la meilleure des intentions, là. Tu sais, Jack Hyde peut pas être capitaine du Canadien. Il peut pas.
Non.
Il peut pas.
Il va être capitaine du Rocket dans quelques semaines.
Non, c'est d'autres mauvaises nouvelles pour nous.
On peut l'appeler shérif si on veut, mais. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est fait pour être...
Il peut même pas être un vrai policier.
Tu sais, donc, ben, Max Pacioretty, c'est peut-être un bon exemple. Max Pacioretty avait pas la gueule d'un capitaine. Avait
tellement pas.
Avait pas le charisme. Il avait plein de belles qualités, puis il y a plein de monde qui l'aimait gros comme la lune. Mais c'était pas un capitaine. Un capitaine, c'est quelque chose que t'as ou que t'as pas. Du leadership, c'est quelque chose que t'as ou que t'as pas. Comment on a pu s'imaginer voir une graine, une once, une micro-dose de leadership dans Pablo Rodriguez? Un gars mou, comme ça se peut pas, qui a eu de la misère à traîner sa fille qui bougonne quand elle traversait le pont.
Hey, je réponds à la question par la peur.
La peur.
On avait tellement eu peur à l'époque que Piqué-Souban devienne le capitaine du Canadien parce qu'il venait de donner 10 millions à l'hôpital qu'on a nommé Pacioretty tout de suite.
Ouais, mais Charles Milliard, c'est pas Piqué-Souban.
Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, je reviens à PQ, Paul-Saint-Pierre Plamondon, la part d'un référendum.
Ah ouais. Charles Milliard, c'est un profil d'homme d'affaires.
Non, 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 mais je parle pas de Charles Milliard. Moi, je parle de la part de la souveraineté, du référendum.
Peut-être.
Je veux placer un pion comme Pablo Rodriguez qui va me permettre au Canada de diriger le Parti libéral du Québec, de tirer les ficelles sur le camp du non, mais que ça passe pas par moi comme en 95 pour pas que j'en vive un scandale des commandites 2.0.
Possible.